Bon, donc ici, ceci, ça vient pour dire, si tout ce qui est blanc est le faux, ici, c'est du S plus A. Parce que la différence symétrique, hein, on peut utiliser plus, c'est le plus de notre logique. C'est l'addition. Et ici, cette différence, c'est que A', ça c'est A' plus grand A.
Et, alors, mais vous allez me dire, mais écoutez, regardez, là, dans votre disque troué, là, vous avez une zone verte et puis vous avez deux zones vides là, que vous avez assurées. Que là, elles ne sont pas assurées, mais on pourrait les assurer. Maintenant, vous avez compris. Il suffit d'assurer ici et d'assurer là. Bon. Vous voyez, ce qui est bleu, l'intersection, puis tout ce qui est vide, c'est quelque chose qui est en dehors de la couleur du vrai de ce nœud logique. Le vrai, c'est le rouge. Ici, dans ce nœud logique, le vrai, c'est le vert. Tout ça, il va falloir voir comment ça peut fonctionner d'une manière cohérente, comme logique. Bon. Alors, vous pouvez dire, mais là, vous n'avez qu'une seule zone rouge et là, qu'une seule zone verte. Alors que ici, vous avez deux zones vertes et deux zones rouges. Bon. Et bien ça, c'est ce que j'avais fait dans les premiers schémas que je vous ai distribués et que j'ai mis en circulation, sur lesquels j'ai fait des calculs. Dès le début, pour avoir le nœud logique, c'est-à-dire le trou à l'intérieur de S, le trou A à l'intérieur de S, où A est un manque, j'avais aboli la partie perdue dans l'aliénation du sujet. Et là aussi, j'avais aboli la partie perdue dans l'aliénation du sujet. Donc si maintenant je fais le coup du point de capiton là et là, hein, ce que j'appelle le coup du point de capiton, je vais vous le faire ici, je vais le faire à côté. Donc ça c'était la dualité des zones. C'est toujours à l'ordre du jour. Voilà. Qu'est-ce que c'est le point de capiton ici? C'est que je prends cette zone que j'ai assurée et je vais la réduire à un point. Alors, quels sont les... Ça, c'est de la pure logico-topologie de Lacan. J'ai un truc comme ça et un truc comme ça. Vous voyez? A' il est là et grand A il est là. Et ça, c'est tout vert. Ça, c'est vert. Bon. Donc amusez-vous à faire ça quand vous voulez vous débarrasser des zones assurées là, qui ne servent à rien. Là, puisque le produit de l'aliénation, c'est la perte d'une partie de l'objet. Pourquoi? Parce que A' implique A. Hein? L'aliénation, Lacan l'a définie comme étant une différence symétrique d'aspect, c'est-à-dire A' différent de A, différence symétrique. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est ce qui est rendu par la couleur verte et puis la couleur non assurée. Ça, c'est la différence symétrique. Si j'abolis une partie de l'objet A', ça va donner le choix forcé. Hein. La bourse ou la vie. Vous voyez bien que dans la bourse ou la vie, il y a la bourse implique la vie. Pourquoi c'est aliénant? Parce que le sujet, on lui dit simplement la bourse ou la vie. On a l'impression de lui donner le choix. Alors qu'en fin de compte, il y a un choix forcé. Donc là, je n'ai pas marqué le choix forcé dans ces schémas. Je n'ai pas commencé à assurer ça ici, tout ça. J'ai à faire disparaître toutes les zones qui sont abolies par le choix forcé ici et puis par le choix forcé ici. Et ici, A implique S. Alors pour ceux qui veulent faire de la sémantique, A implique S, vous voyez bien que si c'est aboli, vous voyez bien que A, qu'est-ce qui reste de A? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de S. Et c'est ce que montre le point de capiton. Parce que vous voyez, le point de capiton, si maintenant ce point de capiton, je le réduis à un gros point, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment le point de capiton là. Hein? J'ai A qui est là, A' qui est là, et grand A qui est là. Et je peux faire la même chose avec l'autre. Et puis là, regardez, je vais mettre la couleur verte. Il me reste une dernière chose à faire pour obtenir mes disques à la Lacan. Moi je suis pas grossier. Vous voyez, qu'est-ce que je dois faire après pour obtenir le disque vert avec un trou? Eh bien ici il y a un point de tangence, ça s'appelle un point de tangence. Le point de capiton c'est un point de tangence. Mais ce point de tangente, si je le fais lâcher, si je le largue, si je le fais lâcher, hein, si je défais cette tangence, hein, je les sépare, vous voyez, vous avez bien un rond qui est dans un autre rond. Le point, je le coupe en deux. Voilà. Et bien là, j'ai A' et là, j'ai grand A. Et donc, qu'est-ce que c'est que les disques? Les disques, c'est le résultat de l'aliénation. Et j'ai montré dans un article que cette aliénation, elle est automatique en logique. Si à la place de A et de A', hein, vous prenez 0 et 1, le 0 comme faux, par exemple, et le 1 comme vrai, hein, et bien vous allez avoir automatiquement ça. 0 comme ça et comme ça. Bon. La seule différence avec la théorie des ensembles, c'est qu'en plus, en théorie des ensembles, comme ça, c'est l'extérieur, le 0, on ne le montre même pas. On prend le vide. Hein. Et du coup, on réduit par un point de capiton le 0 lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est que 1 ben, c'est, 1, c'est le disque sans trou. C'est très curieux que la théorie des ensembles, ça permette avec cette histoire de vide, de ne pas vouloir le représenter, non pas de le représenter, de ne pas vouloir l'écrire. Il ne s'agit pas de le représenter, mais il faut l'écrire dans le diagramme. Et en écrivant le vide dans le diagramme, ça peut faire commettre des erreurs, parce que vous savez, il y a plein d'élèves qui, dès la sixième, ils se posent la question. Hein. Moi, j'ai vu des élèves qui essayaient des trucs géniaux pour essayer de retrouver le vide quelque part. Parce que le vide, c'est quand même très emmerdant dans la théorie des ensembles. Hein. C'est exactement comme ce que disait Pascal du centre de l'univers, quoi, le C1. L'univers, c'est un espace dont le centre est nulle part et la périphérie partout. Hein. Et vous pouvez dire même que le centre, il est nulle part et qu'il est partout. Hein. Vous savez, c'est pas très compliqué à penser, ça, que le centre peut être nulle part et partout. Si vous prenez une sphère, hein, bon, je mets un équateur pour pas que vous croyiez que c'est une lune, que c'est un simple disque. La lune, c'est une sphère. Ben vous voyez que si vous mettez un point sur une sphère, c'est un centre. Le centre, il peut être mis n'importe où, il est nulle part et il est partout. Puisque le centre de la sphère, c'est celui qui est au milieu, là, qui définit la sphère d'une manière géométrique et métrique. Hein. Mais sur la surface de la sphère, et ben, n'importe quel point peut être le centre de la sphère. Pourquoi? Parce que si vous mettez un autre point antipodal, vous voyez qu'il passe, vous prenez un diamètre de la sphère comme ça qui passe par le centre O, comme ça, vous avez un point M. De l'autre côté, vous allez trouver un point M'. Si vous trouvez la sphère au point M', vous allez pouvoir la présenter comme ça, avec le point M au milieu, et puis le tour, ce sera M'. M', c'est le trou. Vous faites un trou gros comme une tête d'épingle, et tout ce qui est autour de M' dans la sphère, c'est la même chose que ce qui est dans le disque sans le bord. Donc ça, j'ai montré ça il y a déjà un moment, mais c'est absolument nécessaire à comprendre pour, par exemple, pour lire le Coiret sur de l'influence des théories, des doctrines philosophiques sur les théories scientifiques. Hein. Il montre que grâce à des trucs, enfin, il évoque le fait que grâce à des trucs comme ça, que la sphère, c'est un disque où le centre est partout et la périphérie nulle part. Hein. On a supprimé la périphérie, du coup, il n'y a plus de centre. Mais finalement, n'importe quel point peut être centre et n'importe quel autre point peut être la périphérie. Génial. Tout ça, c'est des commentaires que ne font pas les mathématiciens, mais ils ont peur de faire bourrer leurs élèves, mais ça ne les empêche pas de penser. Et vous voyez, et Lacan, c'est quelqu'un qui, lui, parce qu'il est clinicien, comme on dit, hein, mais il n'est pas clinicien à noix, il est clinicien sérieux, c'est-à-dire que lui, il se met à la tâche, il fait comme Freud, il se met à contribution. On ne peut pas faire une autre clinique que la sienne. Hein. C'est pour ça qu'on a les analysants, on les incite à faire la même chose, à être analysant, c'est-à-dire à faire l'analyse de leur propre cas. C'est bien, la femme d'auto-analyse, alors vous allez avoir dans les écoles, vous allez avoir un curé qui va se lever et dire « Mais monsieur, il n'y a pas d'auto-analyse, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» Non, il n'y a pas d'auto-analyse, parce que l'analyse, ça se fait avec le langage. Et le langage, c'est l'altérité. Et il y a toujours de l'autre. Et n'empêche que l'analysant, il est invité à faire son analyse et à devenir l'analyste de son expérience à tous les étages. Au début, c'est lui qui fait l'analyse, puisqu'il
puisqu'il institue l'analyste comme analyste. Pendant la cure, c'est lui qui fait l'analyse parce que, comme analysant, il doit s'analyser. Et à la fin, quand il a fini, il fait l'analyse parce qu'il s'aperçoit que le type à qui il parlait, ou la dame, c'était pas ça, c'était pas celle ou celui qu'il croyait, comme disait Lacan en citant, comment il s'appelait ce petit conte, là, ce très joli petit conte que le Meunier a publié dans Ricard, hein, sur l'histoire des deux qui vont au bal masqué, ils sont tous les deux déguisés, ils se retrouvent dans la soirée, ils vont se mettre dans une pièce un peu à l'écart, et puis hop, ils enlèvent leur masque, ce n'était pas elle, ce n'était pas lui. Bon, c'est ça le transfert. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'analyse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le devenir, l'analyste qu'on aurait aimé rencontrer, parce qu'on ne rencontre jamais. Et un bon analyste, c'est quelqu'un qui vous fait bien sentir que il ne mange pas de ce pain-là, lui, il n'est pas l'analyste que vous voulez avoir. Ça, je vous promets, Lacan, moi je croyais que Lacan, il comprenait tout. Ben, c'est normal, hein, le sujet supposé savoir, il pigeait tout. Il savait tout. Bon, alors du coup, il n'était même pas besoin de lui dire. Donc, transfert. C'est pour ça qu'un sujet supposé savoir, c'est la théorie du transfert. Parce que si l'analyste est le sujet supposé savoir, ce qui est une grave erreur, il sait tout, donc c'est pas la peine de le lui dire. Donc on n'a rien à lui dire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe des séances, on ferme sa gueule.
Bon. C'est une très très forte. Être silencieux dans la cure, c'est une très 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 forte pression du transfert. Là, vous êtes sûr qu'il y a du transfert, mais c'est très emmerdant, des fois, parce que ça dure des heures, des plombes, et puis des semaines. En général, les tirés, ils sont emmerdés. Quand l'analysant, il transfère tellement qu'on est déjà arrivé, mais on n'a pas encore commencé. Alors, vous voyez, c'est. Bon. Ça les emmerde beaucoup, hein. Moi, je pense que c'est pas emmerdant du tout. Quelqu'un qui parle pas du tout, il faut lui dire, ben alors, voilà, tenez, vous savez ce que c'est qu'un euboroméen? Regardez comme c'est rigolo.
Mais non, regardez. Quand il y a que du silence, c'est
que du silence.
Surtout de la résistance.
Oui. Non, c'est, la résistance, mais qu'est-ce que la résistance? C'est le transfert, mon vieux. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. La résistance, on parle pas de la résistance extrinsèque, là, les méchants, ça s'appelle la défense. Il faut faire la différence entre la défense et la résistance. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est la différence?
C'est pas très compliqué. Si vous avez un peu l'expérience du boulot, si de temps en temps, au lieu de faire toujours le clown du vélo et de draguer les filles, et que vous faites comme ça toujours, vous surfez sur le discours, bon ben non, vous pouvez. Si vous arrêtez un jour sur une table de travail, vous travaillez de ça, vous allez vous apercevoir que la défense, c'est se dire, c'est même pas la peine que je me mette à bosser, de toute façon, c'est pas intéressant. Mais est-ce que la résistance, c'est quand vous faites quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose, quand vous travaillez, quand vous êtes dans l'acte, hein, vous rencontrez de la difficulté. Et là, vous avez de la résistance. Donc la résistance, c'est pas nocif, puisque justement, c'est l'indication que là, il y a du grain à moudre, puisqu'on n'y arrive pas. Vous comprenez? Alors que la défense, oui, la défense, c'est... Hein, c'est quoi la défense? C'est une dénégation, c'est au sens le plus grossier. Hein, c'est pas du tout la même chose que la résistance. Bon, Lacan, il a écrit d'ailleurs à ce propos une très jolie formule dans Direction de la cure. Il déclare, hein, c'est un type de paragraphe, la résistance au résistant. Alors tout le monde comprend qu'il veut dire que c'est les psychanalystes qui résistent à la place des analysants. C'est peut-être une façon de dire ça. C'est pas exclu. Hein. C'est que c'est sûr que les analystes, en rencontrant leur propre résistance, hein, Lacan il les décrit quand même comme des gars, des bonnes femmes qui sont assis sur un fauteuil sur lequel ils ont mis un coussin, le coussin de leur vieille résistance, qu'ils n'ont jamais résolu. Comment ?
Macère.
Ouais, ça macère, voilà. Ça serre et ça macère.
Bon. Donc, il y en a plein comme ça. Alors, ça, en général, ils ont la bouche en forme de cul de poule. Enfin, la bouche est un peu pincée. Bon. Toujours est-il pour vous dire que c'est quand même des choses dont il faudrait parler sans mettre personne en cause, sauf ceux qui prétendent parler au nom de tout le monde et puis diriger tout. Ceux-là, moi, je ne les rate pas. Hein. Moi, je ne mets personne en cause dans l'analyse en dehors de ceux qui prétendent parler au nom de l'analyse et qui ne se sont pas donné les moyens de pouvoir en parler. Bon. Et je prétends que s'ils ne font pas ça, entre autres, ce genre de conneries, hein, eh ben, il ferait mieux d'aller se taire et puis de faire comme tout le monde, d'aller faire autre chose, quoi. Bon, on s'en porterait beaucoup mieux. Vous avez vu que les Anglais, ça y est, ils ont renoncé à réglementer les thérapies par la parole. Je vous dis que les Anglais, c'est des gens formidables. Vous vous rendez compte? Ils ont mis en. Ils ont mis, pof, stop, l'Europe, qu'ils aillent se faire voir avec leur réglementation des psychothérapies. Les psychothérapies par la parole, on les réglemente pas. C'est l'Angleterre. Bon, c'est pas la gauche qui est au pouvoir, hein, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt des gens droits, mais c'est plutôt, oui, conservateurs. Mais le problème, c'est quand même formidable. Quand je vous dis que les Anglais, on ne peut pas les imiter, que les Américains ne sont pas des Anglais, que les Français ne comprennent rien, les Anglais, c'est des gens incroyables. C'est des gens qui sont mécanistes et qui ont un compte à soi, c'est des snobs. Ah oui, ça ne s'invente pas, ça. Hein, les Japonais, ils étaient des snobs d'une autre manière. 300 ans sans rentrer dans le système industriel. Les Anglais, ils sont rentrés la tête baissée dans le système industriel. C'est même eux qui ont fait la première révolution industrielle. Mais c'est quand même des gens fantastiques. Bon. Parce qu'il y a ce discours du roi, ce film, par exemple, je vous dis. Et puis parce qu'ils ont cette différence entre freedom et liberté. Ça fait qu'ils sont moins fous. Parce que en français, je ne sais pas comment c'est autrement, mais en français, dès que vous entendez le mot liberté, vous êtes sûr que le gars qui est en train de parler, ou la dame, c'est quelqu'un qui est en train de délirer. Ouais, la liberté, moi, je ne crois pas du tout. Mais je pense que le fait d'en parler, c'est comme le bonheur, c'est une escroquerie. Hein, je ne peux pas parler du bonheur des autres, je ne peux pas parler de la liberté. Non, ça serait déjà pas mal qu'on arrive au lieu de la liberté, à l'indépendance, à une certaine forme de. À abandonner la servilité. Alors là, moi, la servilité, je ne supporte pas. Hein? Et puis, la soumission non plus. Bon. Alors donc, c'est pas la liberté, mais cette espèce de truc qui s'appelle le marketing, la soumission, le fait d'être complètement servile avec des techniques comportementalistes de masse, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Les types qui sont fiers parce qu'ils vous vendent n'importe quelle choucroute. Le commerce, c'était un métier, pourquoi pas? Non? Il y a des gens, moi j'ai connu des gens, ils vendaient des choses, ils savaient ce qu'ils vendaient, ils savaient comment on les faisait. Aussi, oui, exactement. Bon, donc moi je trouve que bon, c'est une idée comme ça à propos de la liberté et de la servilité, on n'en parle pas suffisamment. Bon, et de la dépendance. Et la psychanalyse, c'est une prophylaxie de la dépendance. Mais justement, pour arriver à une certaine indépendance, il ne s'agit pas d'être libre. Il s'agit de plus être soumis et servile avec ces espèces de dinosaures et d'escrocs qui prétendent parler sans se donner les moyens de ce qu'ils avancent. Lisez les dernières pages de La chose freudienne de Lacan, ça va vous rafraîchir, vous allez voir. C'est mieux que les bandes dessinées. Ça va vous faire un bain douche tellement délicieux, frais. Vous allez voir quand il parle des autorités ignorantes qui parlent. Vous allez voir, lisez ça. On se demande. Alors, on comprend que les Lacaniens soient tombés dans le piège. Parce que si Lacan dénonçait ça si bien, pourquoi ses élèves se retrouvent à faire la même chose? On pouvait penser que le maître d'école aurait pu faire la leçon à ses élèves pour éviter ça. Non? Ben non. Lacan, c'est un mec. Il va dénoncer le freudisme, les freudiens, tout ce qu'ils ont fait. Alors, il oppose Freud aux freudiens. On se dit, ah, nous, il va nous protéger contre cette connerie. Et puis, pas du tout, il vous protège absolument pas. Il vous dit, bon, ben, de toute façon, moi, j'ai rien fait pour vous. Hein. C'est à vous de lire, c'est à vous de faire votre boulot, faites-le. Et hop, je suis pas un maître, je suis un psychanalyste. Et même moi, il a fait le coup, regardez, hein. Je suis obligé de fuir en Argentine, mais je suis pas protégé par. Il m'a pas mis le pied à l'étrier. Comme on dit, la seule personne à qui il a adressé des lauriers, c'est un mec qui s'appelle Laurent. C'est pas trop gros risque, hein. Vous savez, hein, Farine et Meunier, ils essayent de se broyer ensemble. Il y en a un troisième qui lui a mis des lauriers sur la tête. En citant Molière. C'est assez marrant, Lacan, comme l'idée qu'il a du psychanalyste, hein, et de la fonction analytique. Hein. Pas de privilège. C'est, la psychanalyse, même, elle est ségrégative. Mais comment est-ce qu'elle est ségrégative? Égalité. Tenez, après la liberté, on va parler de l'égalité. La psychanalyse, qu'est-ce qu'elle dit? C'est génial. On a toujours essayé d'arrêter cette espèce de ce que moi j'appelle l'injustice. Et moi, je suis toujours contre l'injustice. Je suis pas pour l'égalité, je suis pour la justice. Et je lutte contre l'injustice. Et je trouve ça intolérable. La servilité et l'injustice, je trouve ça intolérable.
mais je ne suis pas pour l'égalité. Et Freud, il invente un truc génial. Au lieu de nous faire les supérieurs, vous savez, dans Platon, vous avez la République, la classe des gens qui vont diriger le pays, parce qu'ils ont été formés toute leur vie, ils sont nés comme ça, on les a éduqués comme ça, ils vont être les surhommes, vous voyez. Bon. Ça va jusqu'à notre époque, les surhommes et les hommes nouveaux. Hein. Ça se trouve dans Platon, ça. C'est une caste à part qui est formée pour diriger la cité. Et tout le monde est là en train de dire « Science politique, bravo la République de Platon bon. !» Freud, il invente un truc génial, le psychanalyste. Le psychanalyste, justement, c'est un con. Et même, c'est personne. C'est un con qui est personne. C'est-à-dire que c'est un objet, c'est un instrument, il faut s'en servir. Mais il n'y en a rien à cirer, c'est l'analysant qui doit se diviser en deux. Voilà la ségrégation freudienne et lacanienne. La psychanalyse, c'est ségrégatif, mais c'est le sujet lui-même qui se trouve coupé en deux avec son cheval, si vous voulez, pendant que vous y êtes, c'est comme dans la guerre, avec Léon. Et puis, c'est lui qui se retrouve divisé en tant qu'analysant. Tout à coup, il va se retrouver avec de l'analysé d'un côté, puis du non-analysable de l'autre, objet de tita qui traîne là, et c'est pas l'analyste qui était l'objet A, c'est un reste. Et qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Ben, c'est devenir cet analyste qu'il a voulu avoir. Et vous voyez, pour le transfert et la résistance, c'est pas mal de devenir l'analyste de sa propre expérience. Celui qu'on aurait voulu que l'analyste soit. Ben oui, parce que les analysants qu'on aura, eux, ils veulent en avoir un autre. Celui que moi je voulais, c'est pas du tout. J'ai aucune chance que les analysants, ils voulaient avoir le analyste que moi je trouve intéressant. Eux, ils s'intéressent à autre chose. Et donc pour le transfert, ça laisse une petite chance justement qu'ils s'aperçoivent qu'il y a erreur sur la personne. Donc la psychanalyse, comme dit Lacan, la psychiatrie c'est hyper ségrégatif. Hein, il dit ça dans la préface à la thèse de Anita Lemaire, hyper ségrégatif la psychiatrie. C'est même un didacte libéral, un décret libéral de l'université qui accueille la faculté de médecine, dans la faculté de médecine, la psychiatrie. Il se marre là-dessus, la salle de garde, tout ça. Mais la psychanalyse, elle est aussi ségrégative. Si vous croyez que ce qu'il dit de la psychiatrie, c'est pour dire que la psychanalyse n'est pas ségrégative, elle est aussi ségrégative. Mais le problème, quelle ségrégation? Avec le langage, vous ne pouvez pas éviter la ségrégation. Regardez, c'est le langage qui fait les races de céréales, l'hybridation des céréales, les races d'animaux, les espèces, les races humaines, le fait de se reproduire. Vous avez qu'à lire les structures élémentaires de la parenté de Strauss, hein, le problème de l'endogamie et de l'exogamie. Tout ça, ça fait qu'il y a des facteurs biologiques comme ça qui vont ressortir là, hein, et qui vont se marquer, qui vont apparaître. Bon, puis si vous mélangez tout, pop, plus de ségrégation, plus de différence. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quand on a pigé ça? Eh bien, on s'aperçoit qu'on peut effectivement lutter contre le racisme et toutes les formes de ségrégation en disant que la ségrégation, il en faut, c'est nécessaire, le langage c'est ségrégatif, nous sommes l'espèce la plus ségrégative qui existe. Parce que je pense que les autres sont beaucoup moins. Ça se mélange beaucoup plus, quand ils pourrissent, ils ne font pas des tombeaux, ça se décompose, ça enlève la boue. Nous, on a même les morts, on continue à les mettre de côté. Hein, vous voyez, on en a plein des catacombes. Alors, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, il faut dire ces choses-là. Pour dire quoi? Pour dire que justement, c'est seulement en reconnaissant tout ça qu'on peut lutter efficacement contre ceux qui nous chantent des louanges de la liberté. C'est des louanges de l'égalité. Moi, je vous propose de remplacer fraternité, ça, d'accord. Gardons fraternité, mais attention au parallélien quand même. Hein. Le frère aîné, le frère le plus jeune, des fois, ça. Bon, il y a le papa et le frère aîné qui est très, 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 très mauvais pour le gars. Ça fait des carrières politiques magnifiques. Hein. Ensuite, ils sont dévoués. Regardez Mitterrand, il avait un frère qui a dû lui en faire voir. Hein. Et même d'ailleurs, c'est son neveu qui dit la vérité du tonton, puisque c'est le neveu qui se présente comme une folle. Hein, bon, donc, c'est une famille sympa d'ailleurs, ils veulent dire la vérité. Bon. Seulement le problème, c'est que y a la fraternité, même, c'est pas simple. Bon, alors, fraternité, il faudrait quand même arriver justement à apprendre à lire. Fraternité en sachant lire. Il y aurait peut-être moins que des mecs dans la politique, et puis il y aurait peut-être quelques femmes qui ne seraient pas des mecs. Parce que actuellement, c'est que des gens ont eu des problèmes avec leur frère aîné ou leur père. Et les deux, peut-être, des fois en même temps. Ça, c'est ce que dit Freud. 1922, hein, vous pouvez le lire. Et il le dit déjà dans la conférence 26, 1916.
Hein, c'est un programme, tout ça. C'est le seul texte que Lacan a traduit de Freud. Le texte sur la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité en 22. Bon. Ça a dû m'intéresser, Lacan, quand même, pour qu'il le traduise.
Alors là-dessus, donc, je vous dis, fraternité à condition qu'on ne soit pas paranoïaque, la liberté, non, contre la servilité et la soumission, oui, et donc pour l'insolence. Et puis, parlons justement donc de non pas d'égalité, n'est-ce pas, mais de la différence, mais commencez à vous couper en deux vous-même. Commencez à vous ségréguer un peu vous-même. Voilà, c'est ça, c'est pas mal comme idée. Au lieu de fabriquer un clan de meilleurs, de trucs, vous voyez, de croire qu'on va en faire qui sont meilleurs, une fiction comme le psychanalyste pour arriver à ce que vous aperceviez que c'est vous qui êtes coupé en deux. Et qu'il n'y a pas de plus grand ségrégatif que vous vis-à-vis de vous-même. Ça s'appelle le surmoi, peut-être. Ça s'appelle le sphère du tort, vous voyez, la névrose, ces choses, la folie. Donc il y a des moyens quand même dans Lacan de réfléchir à tout ça, parce que justement c'est quelqu'un qui était révolté, rebelle, et ça même François Regnault, quand il a appris, quand Lacan lui a dit qu'on lui a parlé de sa rébellion, il en a fait un article qui est paru dans la nouvelle série de Ornicard. Il n'y a eu qu'un seul numéro avant qu'il la fasse électronique. Il y a un témoignage de François Regnault qui témoigne de la soirée quand Lacan s'est fait attaquer là, avec un mec qui l'a menacé avec un flingue. Il a dû aller chez les flics pour lui piquer du pognon. Il a dû aller chez les flics avec sa foi pour porter plainte. Et après, il a parlé à ces gens. Il a parlé à Regnault. Vous voyez un peu où ils en sont, ces jeunes maoïstes. Moi, j'aime bien François Regnault. C'est un type charmant. Mais quand même, ils ne peuvent pas imaginer que Lacan soit un rebelle. Bon, Lacan, c'est pas le genre de rebelle, il va pas aller faire Radio Londres pour faire comme le roi d'Angleterre qui arrive pas à parler. Non? Vous avez vu à l'époque, la radio, c'était à la mode, tout le monde faisait des discours à la radio. Le roi d'Angleterre, il était bègue, et puis De Gaulle, il parlait vachement bien. Bon. Nous, les Français, on parle bien.
Hein. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh ben, vous voyez que, Lacan, c'est quelqu'un qui est un hyper rebelle. Mais le problème, c'est qu'il est absolument pas pareil. Il ne veut pas de l'Académie française, il ne veut pas de la Légion d'honneur, il n'a aucun bibelot de ce genre. Hein. Mais il s'est quand même marié, il est très préoccupé par son mariage. Il y a Ashbrook qui vient de sortir sur Internet ce qui a fait circuler avant de mourir les lettres que Lacan écrit à son frère à propos de son mariage. C'est assez pathétique, hein, les lettres qu'il écrit à son frère qui est dominicain. Bon. Alors je passe là-dessus pour vous dire que tout ça c'est fait pour justement essayer de lire sans croire à tous les bobards qu'on vous raconte. Comment faire pour vous frotter les yeux et puis, eh ben il faut s'exercer. Et vous voyez, s'exercer à quoi? S'exercer à voir que ceci c'est une logique dans mes schémas dans lesquels j'ai pas encore barré, j'ai pas encore annulé, j'ai pas encore détruit la partie perdue dans l'animation, qui est perdue à cause du choix forcé. Bon. Là, je vous renvoie à mon article, ça s'appelle « Le veil de l'aliénation ». Hein. C'est dans la page Internet, vous pouvez trouver mes textes. Oui, j'en ai ajouté un, là, il y a peu de temps, qui va paraître en espagnol à Buenos Aires, c'est sur les incorporels. On l'a mis sur le site en français. Bon, il ne faut pas le dire à l'éditeur. Hein. Bon, on va. Il est en français, je n'ai pas mis la version espagnole. Il faudra me dire, Félix, quand on pourra mettre la version espagnole, si un jour on peut la mettre pour les gens qui font une langue espagnole, non? Bon, parce que j'avais l'idée de l'envoyer à Bossa, à Barcelone, pour que tout le monde puisse le lire aussi en espagnol. Bon, on verra. Alors. Voilà, donc on avance petit à petit. Qu'est-ce que fait la présence de deux autres ronds, l'intersection d'une logique qui n'est. Vous allez voir, c'est avec la notion de logique. Je vais faire rentrer l'abolition d'une partie de l'objet, je vais faire rentrer l'aliénation, la perte d'une partie de l'objet, qu'on va retrouver dans l'autre. Hein. Alors c'est là que je veux en venir à cette histoire de jouissance. Écoutez.
cette histoire d'objet perdu dans la psychanalyse, hein, tout le monde est là en train de vous faire vous faire marner en vous disant « Ah ouais, mon pauvre ami, vous recherchez l'objet perdu, moi j'ai tout compris, le deuil, il faut faire son deuil, le travail du deuil, ou bien j'ai tout compris, l'oblativité, il y en a qui sont prêts à donner leur chemise pour faire un bouclier, pour éviter de rencontrer l'autre, etc. » Tout ça est juste. Mais c'est insuffisant. Il faut arriver à moudre un truc un peu plus fin. C'est tout. Hein? Le problème, il est tout de même que là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de montrer comment ça s'écrit que, sans que ce soit du tout aboli de cette manière-là, ça sera aboli intrinsèquement dans le néologisme. Moi, j'étais parti avec ça comme des diagrammes de l'ère veine de la logique classique. Et c'est seulement après avoir vu qu'il fallait modifier l'intersection, qu'il fallait déjà avoir une intersection. Et voyant qu'il fallait avoir une intersection, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas écrire l'intersection de logique. Tout ce qu'on peut faire de mieux avec Boole, c'est d'avoir ça. Avec Boole, c'est d'avoir P et non P. Si vous avez deux logiques, vous en avez une qui est S, l'autre qui est A. S, c'est non A, et A, c'est non S. Bon, ça suffit, par exemple, pour écrire les formules à sexuation. J'ai fait ça, mais alors la difficulté des formules à sexuation, c'est que maintenant il y a un problème de Cantor, de proposition, de prédicat, de quantification et de théorie des ensembles. Donc c'est une logique. D'un point de vue logique, c'est pas très compliqué. On peut se contenter de cette situation booléenne très simple, P et non P, hein, A et non A, S est égal à non A. Les deux sont deux opposés par la négation. Donc finalement, les formules à sexuation, logiquement, c'est beaucoup plus simple que l'aliénation, la séparation, et ce vers quoi nous nous dirigeons, qui est la répétition. Parce que où ça nous conduit? Ça nous conduit comment, dans la séparation, l'objet, le sujet retrouve la partie perdue, la partie abolie de l'objet, de son manque, qu'il a perdu dans l'aliénation, comment il va la retrouver dans le manque de l'autre. Vous voyez, c'est dans le trou de la prime, hein. Quand les deux disques, alors là je vais vous le dessiner parce que ce qui nous intéresse ici de construire, c'est à partir de cette situation de deux logiques disjointes, comment faire pour faire deux logiques qui ont une intersection. Nous en sommes là. Ça veut dire ça. Ça veut dire que pour les diagrammes géométriques, c'est assez facile. Vous voyez, si vous avez un disque comme ça et l'autre là. Pour que ça marche, il faut que le diamètre du trou soit un tiers du diamètre du disque, du grand disque. Bon, voilà. Ici, vous avez la zone rouge. Les deux disques, ils sont superposés, hein.